Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Esprit Saint, Esprit aux quatre vents. C'est toi qui as inspiré cette émission et ceux qui ont donné du temps pour rester connectés, pour nous écouter, vivre ce temps de prière, de méditation, de partage. Esprit Saint, nous voulons te demander de venir souffler sur nos vies, sur nos existences. Esprit Saint, apporte-nous la fraîcheur. Apporte-nous la joie de croire. Apporte-nous la ferveur. Apporte-nous le désir de suivre Jésus. Et comme Marie, à l'ombre, couvert par l'ombre de l'Esprit Saint, nous voulons aussi nous laisser totalement et entièrement être couvert de l'ombre de l'Esprit pour que cette venue de l'Esprit soit féconde dans nos vies. Aussi, je vous invite, chers auditeurs, chez vous, à prier avec moi, Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
Amen. À vous, cher Père.
Voilà.
Nous sommes tout attentifs.
Nous avons donc prié la Vierge Marie. Et nous allons entrer tout de suite, sans plus tarder, dans le thème de cette émission. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Avant d'aller plus loin, je souhaiterais me présenter pour que vous puissiez, comme je l'ai dit il y a un instant, pouvoir bien savoir d'où je parle pour bien recevoir mon propos. Je suis le frère Joseph-Marie Tsanank, d'origine camerounaise. Et je suis dans la communauté de la Croix Glorieuse depuis l'an 2000. Moi-même, j'ai fait l'expérience du Saint-Esprit en 1989. C'est là que Jésus est devenu une personne vivante pour moi et il m'a donné la joie de croire et donné de faire l'expérience du Saint-Esprit. C'est lui qui nous apprend à dire que Jésus est Seigneur. Après cette expérience, j'ai été baptisé et j'ai répondu à l'appel de Jésus, à le suivre et à le servir de manière plus radicale dans la voie de la vie consacrée. Ainsi, je suis donc membre de la communauté de la Croix Glorieuse, comme je l'ai dit, depuis l'an 2000, ordonné prêtre en 2007 à Perpignan. Pendant 10 ans, j'ai travaillé comme aumônier d'étudiants dans cette même ville. Cumulativement avec cette émission, j'ai initié ma thèse de doctorat en théologie pastorale sous le titre « Les recommençants à croire dans l'Église catholique en France depuis 1970, enjeux et défis d'une théologie catéchuménale ». Depuis la soutenance de cette thèse en 2007, dans mes missions diocésaines et paroissiales, auprès des catéchumènes, des recommençants, des confirmants et confirmés adultes, des jeunes, j'ai exploré, je continue d'explorer les raisons pour lesquelles tant et tant de baptisés en Occident se définissent comme des chrétiens sans pour autant en confesser la foi. Comment on passe de l'imaginaire religieux à la foi évangélique? Comment on passe de la non-foi à la foi évangélique? Pourquoi le baptême est-il devenu pour un grand nombre un rite perdu dans les brumes du passé, sans lien avec la foi chrétienne ou la confession de foi chrétienne commune des baptisés? Ces questions sont à l'arrière-plan de l'exposé que je vous présente en ce jour. Dans un premier temps, je commencerai par situer le titre même de cette conférence dans son contexte, à savoir le verset duquel il est tiré, ce qui nous permettra ainsi de justifier ce titre, car il ne tombe pas comme cela de nulle part. Dans un deuxième temps, je commenterai ce titre dans son rapport avec quelques autres versets bibliques, qu'a pris en lui-même sans lien avec ces versets suivants, qui le suivent, en tout cas dans un faisceau de versets dans lesquels il s'insère, on ne comprendait rien à cette phrase. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Dans un troisième temps, enfin, je développerai une compréhension renouvelée de l'eau vive comme symbolique du Saint-Esprit. Voilà donc, chers amis auditeurs, le plan pour ce temps que nous allons passer ensemble. Alors, je commence tout de suite donc par le texte qui est donc à situer dans son contexte. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». De qui est cette phrase? D'où est-elle tirée? Et pourquoi porter cette l'intervention de ce jour sur ce thème? Il ne vous a pas échappé que nous sommes tout à l'orée de la fête de l'entrée dans le temps de l'Avent. Dimanche prochain, c'est le temps, premier dimanche de l'Avent. Donc cette phrase qui comprend le mot « vient » vous suggère, vous met déjà sur la piste de l'Avent, qui est donc ce temps où on invite, on désire ardemment que le Seigneur vienne. Donc cette phrase « l'Esprit et l'Épouse disent « viens » est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Ici, je dois citer le poète Claudel. Paul Claudel qui disait dans un de ses livres que le livre de l'Apocalypse est le plus obscur et le plus difficile du recueil sacré. Fin de citation. Pourtant, il semble, selon plusieurs exégètes, que ce livre est l'un des livres le mieux construit du Nouveau Testament. L'Apocalypse est un livre obscur pour ceux qui cherchent un déroulement chronologique des faits. Or, il faut y voir autre chose, ce qu'il veut dire. Et avant même d'aller plus loin, disons très rapidement un mot sur ce terme d'Apocalypse. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec les événements terribles que l'imaginaire collectif a construit. Mais au contraire, c'est tout simplement un mot qui veut dire « révélation ». On pense au dévoilement de l'être ici de Heidegger, mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est « révélation », « dévoiler ». Donc, on doit y voir dans ce texte, dans ce livre d'Apocalypse, dans lequel est tiré notre verset, non pas une recherche d'un déroulement chronologique des faits, mais chercher ce que veut dire ce livre. À savoir donc une lecture prophétique de l'histoire, l'histoire du présent, de l'auteur de ce texte et des communautés chrétiennes qu'il a sous les yeux. Mais ce présent est projeté vers les derniers temps qui se comprennent à partir de la résurrection du Christ, agneau vainqueur. Vous avez tout de suite bien vu que nous avons parlé du passé, inscrit dans un présent et ouvert vers l'avenir. Donc celui qui écrit son texte, Jean, quand il écrit son texte au premier siècle de l'Église, il a devant lui une communauté, il est inséré dans une communauté qui est éprouvée littéralement, qui est secouée, qui vit difficilement dans un contexte où le christianisme est très minoritaire, le contexte de persécution. Et parfois donc, pour s'exprimer, parler à d'autres, réveiller le courage et l'espérance en eux, il faut utiliser des termes codés. C'est pour ça qu'il y a plein d'images dans ce livre de l'Apocalypse. Et cela aussi nous concerne parce que notre texte nous dit quelque chose sur le temps dans lequel nous sommes. La pandémie, vous voyez bien, avant d'en arriver à la pandémie, c'est le Christ agneau vainqueur qui est rappelé, on redit l'importance du Christ agneau vainqueur à ces communautés chrétiennes secouées, pour qu'elles ne croient pas que le Christ est mort et que tout s'est arrêté là. Dans la pandémie de la COVID-19, les scandales sexuels à répétition dans l'Église sont autant d'événements qui ont secoué la confiance, secoué, ébranlé certaines chrétiens ou même des communautés chrétiennes. Et tous ces événements imposent un regard prophétique sur notre présent et celui de nos communautés chrétiennes, elles aussi ébranlées. Autrement dit, comment continuer à croire après tous ces événements? Quels hommes et femmes d'espérance sommes-nous appelés à être en ces temps de tourmente que traversent nos communautés chrétiennes? Vous voyez donc que ce n'est pas seulement le temps liturgique de l'Avent qui prépare à Noël, qui commande que nous parlions de l'esprit et de l'épouse qui disent « viens ». C'est le temps dans lequel nous sommes qui nous y oblige. Alors, nous récitions donc nous poursuivons donc cette situation du texte dans son contexte en citant le texte dans son intégralité. Le verset l'esprit l'épouse disent viens est suivi et en lien avec d'autres phrases qu'il faut bien tenir ensemble. Donc je cite dans son intégralité l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Fin des citations, Apocalypse 22, verset 17, selon la traduction de la Bible Louis II. Voilà le verset qui va nous occuper pendant ce temps, chers amis. On sait, comme je l'ai dit à plus haut, que ce livre de l'Apocalypse est écrit dans un contexte où les chrétiens sont persécutés, on ne revient pas dessus. Et que l'auteur veut réconforter et conforter dans leur foi, c'est les baptisés, qui sont membres de la communauté dans laquelle il fait lui-même partie. Il est parti, il est membre. Comme il utilise un langage codé, on l'a aussi dit, c'est donc un langage qui est immédiatement accessible aux personnes non initiées à la foi chrétienne. Donc, on n'est pas dans un récit, mais dans un genre littéraire prophétique. Et chers amis, vous avez compris qu'en situant ce propos ainsi, j'ai quand même voulu nous faire comprendre que le thème de « Viens Seigneur Jésus-Christ » pris dans ce verset de l'Apocalypse est un thème qui nous appelle aussi à bien comprendre que l'Église ébranlée dans différentes affaires n'a pas à perdre l'espérance. Le Seigneur l'agneau vainqueur est toujours en son sein. Il n'abandonne pas son troupeau malmené. Je passe maintenant dans la deuxième partie de cet exposé qui va donc passer en revue les différentes phrases que nous avons eues sur le verset, nous avons eues dans ce verset. On va donc commencer par qui est l'épouse qui dit avec l'esprit vient, puisqu'on a dit l'esprit. Et l'épouse dise « viens ». Il faut s'interroger aussi pourquoi ce lien entre l'esprit et l'épouse dise « viens ». Pourquoi ce n'est pas seulement l'esprit tout seul qui dit « viens ». Pourquoi l'église tout seul qui dit « l'épouse qui dit « viens ». Et qui est même cette épouse? Mais on nous dit « l'esprit et l'épouse disent « viens ». On lit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 9, ceci. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et puis aussi au chapitre 12 de l'Apocalypse, il nous est dit que la femme, une femme est enceinte dans les douleurs de l'enfantement. Vous avez compris que nous avons ici Marie au pied de la croix en lutte contre les forces obscures du mal. Elle est mère et épouse. Elle est la nouvelle Ève aux côtés du nouvel Adam. Mais ce qui nous intéresse, c'est que à la question « qui est l'épouse ?», on peut dire que, sans se tromper, c'est Marie. Mais cette épouse, on l'a dit aussi, elle est mère. Et on la présente comme la femme de l'agneau. Si on va plus loin, Luc nous apprend que Luc nous apprend aussi que l'Esprit Saint a recouvert Marie de son ombre. De ce lien intime est né Jésus-Christ. Le document conciliaire Lumen Gentium au chapitre 8 également nous parle de Marie comme mère de l'Église. Alors vous voyez bien que l'Esprit recouvre Marie de ce lien intime né Jésus-Christ. Et cette femme, cette mère qui est Marie, reçue à la croix, donnée à Jean à la croix, elle aussi, elle est dite mère et elle est l'épouse de l'agneau. Tout cela, c'est pour dire qu'il y a un faisceau de termes autour de ce mot qui est contenu dans l'esprit, l'épouse disait, viens, tout de l'épouse, il y a plusieurs mots, elle est femme, elle est mère, voilà, elle est une nouvelle Ève. Donc voilà un peu pour répondre à la question, mais qui est l'épouse? Mais on ne peut pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que le livre de l'Apocalypse qui fourmille d'images prend une autre image pour présenter cette épouse. Donc l'épouse, c'est aussi la cité céleste, la Jérusalem d'en haut. Et là, nous lisons dans Apocalypse 21, versets 2 à 9. 2 et 9. Ceci. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je relis. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà, chers amis, Marie, qui est finalement le modèle achevé de cette nouvelle cité, la cité de Jérusalem. Quand on lit ce texte, on pense aussi à saint Augustin, à ses paroles qu'il a dit dans la cité de Dieu. Deux amours ont bâti deux cités, l'amour de ce monde jusqu'au mépris de la cité céleste et l'amour de la cité céleste jusqu'au mépris de la cité terrestre. Bien sûr que saint Augustin parlait ici dans une perspective de théologie politique, mais nous devons comprendre aussi que finalement Marie, qui est la mère, qui est l'épouse, qui est le modèle achevé dont Lumen Gentium au chapitre 8 nous a parlé, Marie, c'est aussi la réalisation parfaite de ce qui nous attend dans la cité céleste. En fait, c'est la reine des anges, la reine de la cour céleste. Alors, on va aller plus loin dans cette méditation.
Mon cher père, permettez-moi de vous interrompre, une question me vient. Et avant que vous n'alliez plus loin, est-ce que aussi cette cité sainte qui vient toute parée, c'est bien sûr Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie, mais peut-on dire aussi que c'est toute âme en état de grâce aussi, qui est parée pour le Seigneur?
Ah, vous faites bien de poser cette question-là, et je vous dirai pourquoi, parce que en fait, la grâce du baptême fait de nous ce que nous avons décrit dans la Jérusalem, décrit de la Jérusalem céleste. C'est peut-être l'occasion de redire toute la beauté de ce que fait la grâce baptismale quand on y consent. Et quand on y répond avec le mieux possible de notre bonne volonté et de la collaboration avec la grâce de Dieu. Il me semble que c'est par la porte du baptême qu'on... Mais le baptême, vous avez bien raison aussi, pas seulement le baptême reçu, pas seulement le baptême perdu dans les brumes du passé, pas seulement le baptême comme un rite du passage, mais le baptême mis en acte, exercé, qui fait de nous d'autres Christ. Vous comprenez que quand je parle de cela, je suis en train de dire déjà que ce qui est comme cité céleste, ça commence, c'est commencé dans notre vie baptismale.
C'est déjà ce là.
Donc ce que nous vivrons pour toujours, éternellement, nous est déjà donné dans cette vie baptismale, déjà là, et pas encore.
Et quelle source de joie. Merci mon père de votre réponse.
Merci beaucoup pour cette question qui me permet de pouvoir justement donc aller plus loin. Et comme je le disais il y a un instant, à qui parle l'époux, l'esprit et l'épouse lorsqu'ils disent « viens ». Et je vais dire aussi à nos amis auditeurs que vous pouvez à tout moment aussi poser votre question puisque cette émission, elle est pour vous, elle est avec vous. Elle est faite pour vous et avec vous.
Entièrement.
Donc, Il parle à l'époux, c'est-à-dire l'esprit et l'épouse, il parle à l'époux que le livre de l'Apocalypse présente ainsi, comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui donne gratuitement la source de l'eau vive. Donc, voyez-vous, ici, c'est extrêmement important pour nous parce que Marie et l'épouse ne parlent pas, ne disent pas, viens dans le vide. Ils parlent à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est l'époux. On est en train de dire toute la relation sponsale, la relation conjugale d'époux à épouse que l'Église entretient avec son Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez qu'on est loin d'une Église qui ne pourrait être que une sorte d'institution qui est écrasante, mais on nous montre là sous un autre jour l'Église. Donc, on nous dit qu'il parle à l'époux. Et cet époux, c'est donc l'alpha et l'oméga. On nous dit ici, c'est le commencement et la fin, c'est celui qui est le point d'orgue de toute la nouvelle création reconstituée dans le Christ. Et il donne la source, gratuitement la source de l'eau vive. Faire de nous une source, c'est dire la grandeur de Dieu, sa magnificence. Ça ne le diminue pas de faire de nous une source. Au contraire, ça le grandit. Dieu se grandit, Dieu se plaît plutôt à faire du mieux en créant des sources. Et ça, c'est un thème qui va être extrêmement important dans notre exposé parce que vous voyez que ça va revenir souvent. La source, les fleuves qui jaillissent. À la condition que nous ayons soif. C'est une chose, l'eau vive ou l'eau de la vie. C'en est une autre, la source de la vie. Au temple, déjà, vous le savez, Jésus avait crié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son sang couleront des fleuves d'eau vive. Vous pensez bien qu'on a cité tout à l'heure, ou bien on va citer des textes également qui parlent des fleuves qui jaillissent du trône et de l'agneau, donné du trône et de l'agneau, du trône du Père et de l'agneau. Voilà comment nous avons donc ici, on sait de qui parle, à qui parle plutôt nos amis qui sont dans l'époux et l'Esprit Saint, et l'époux et l'époux, l'Esprit Saint et l'épouse. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, on lit également. Et il me montra un fleuve d'eau, de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Voilà ce que je vous ai dit il y a un instant. Donc le fleuve de vie qui est limpide comme du cristal sort du trône de Dieu et de l'agneau. Frères et sœurs, chers amis, qu'est-ce que ça nous dit? Quelle est la vérité théologique qui se tient ici? On nous dit simplement que l'esprit dont nous sommes en train de parler, qui est un fleuve de vie, il nous est donné par le Père et le Fils. L'esprit est donné par le Père et le Fils. Ça, c'est une contemplation qu'il faut avoir, ça. L'esprit n'est pas ça, et l'esprit du Père et du Fils. L'esprit nous est donné par le Père dans le Fils. Voilà. Alors, la promesse maintenant de cette eau vive, puisque celui qui croit en lui boira de l'eau vive. Venons-en à cette promesse. On la trouve déjà dans l'Ancien Testament, en Isaïe 55, versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Chers amis, ici nous touchons un point important qui s'appelle la gratuité du don de Dieu. La grâce est un don gratuit offert par Dieu. Le Seigneur nous dit de venez, vous n'avez pas à donner quelque chose en échange si ce n'est votre collaboration pour recevoir cette source en vous. Il nous est dit, venez acheter du vin et de l'eau sans argent, sans rien payer. Il y a une insistance là-dessus, la gratuité. Et cette gratuité, chers amis, nous avons besoin de l'inscrire profondément dans notre propos ici. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société contemporaine où les gens pensent que si on parle de gratuité, ça n'a pas de valeur. Si on parle de gratuité, il faut que ça soit cher pour que ça ait du prix. Or, ici, nous sommes dans la logique de la grâce, la logique du royaume des cieux, où le Seigneur se plaît à donner, non pas parce que nous avons mérité, mais donner parce que Dieu veut nous donner. c'est de libre, la libre initiative de Dieu de nous l'accorder, ce qu'il veut nous l'accorder. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas notre collaboration à apporter au salut que Dieu nous apporte. Non, nous avons aussi, tout autant à collaborer que à recevoir gracieusement et avec gratitude ce que Dieu nous donne. Alors, je vais conclure cette partie en disant ceci. Les deux premières parties là, je vais les conclure en disant ceci. Les phrases que nous avons citées tout à l'heure là, peut-être on peut les relire rapidement, les phrases de cette que nous avons mises en avant, en tout cas, les différentes phrases que nous avons lues, là que je récite ici, l'esprit et l'épouse disent « viens » et que celui qui entend dise « viens » et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Toutes ces phrases ne sont pas, chers amis, des phrases qui se succèdent les unes par rapport aux autres. Ce ne sont pas des phrases qui se succèdent. Au contraire, elles disent plutôt un processus et un dynamisme interne au baptisé. C'est cela qui est traduit ici, là. Je reprends donc ces phrases-là pour synthétiser ce qui a été dit précédemment. L'esprit et l'épouse disent « viens ». Ici, nous avons quoi ? Nous avons une prière sous la forme d'une conversation. Quand l'esprit et l'épouse disent « viens », c'est l'esprit et l'épouse qui parlent à son Seigneur. La prière devient prend la forme d'une conversation. Voyez combien ça va nous déplacer dans notre manière d'imaginer la prière. L'esprit et l'épouse disent « viens », entendez, c'est le cri, la prière qui se fait un cri, la prière qui se fait un cri, la prière qui est dans une conversation. Prier, on parle, on converse avec Dieu. Deuxième point de cette conclusion de cette première partie, dans cette conversation de l'Église avec son Seigneur, n'est pas un monologue ni quelque chose de privé. Chaque baptisé, comme nous l'avons dit il y a un instant, peut entrer et est appelé à entrer dans ce dialogue de l'Église et de l'Esprit avec l'Église, de l'épouse et de l'Esprit avec son Seigneur. Chaque baptisé doit y prendre part. Et y prendre part. C'est pour cela qu'on dit que celui qui entend dise viens. Voyez, celui qui entend dise viens. La prière de l'époux et de l'Église, elle doit être entendue aussi par d'autres. Et quand on l'entend, on reprend pour soi-même, pour son compte, le cri de l'esprit de l'épouse. On fait sienne. Donc c'est le baptisé ici qui doit aussi, à la suite de l'épouse et de l'esprit, dire à son Seigneur, viens, prolonger, faire écho du cri de l'esprit de l'épouse. Le cri de l'épouse et de l'esprit devient celui de chaque baptisé. Vous voyez que nous sommes tous interpellés. Et toi, baptisé, est-ce que tu le dis à ton Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Vous voyez que ce n'est pas si facile, parce que pour le dire, il y a une dimension de notre espérance qui est formulée et qui s'exprime ici. Et puis la phrase continue, on l'a dit, celui qui parle comme il l'a entendu, voilà, c'est plutôt, il faut ici dire que celui-là même qui parle comme il a entendu l'Église parler avec son Seigneur. Parle à Dieu comme tu as entendu l'Église et l'épouse parler à son Seigneur. Voilà ce qu'il nous est dit dans cette deuxième partie. Quand on parle de l'esprit et l'épouse, ce que celui qui entend dise vient, celui-là, il faut donc qu'il parle à Dieu. Chaque baptisé parle à Dieu comme il entend l'esprit et l'épouse parler à son Seigneur. Troisième point, prendre part à cette conversation de l'Église avec son Seigneur fait du baptisé un être du désir. Voilà la citation qu'on a évoquée plus haut, et que celui qui a soif vienne. Mais ce désir doit être efficace et non velléitaire. Un désir efficace est un désir qui va jusqu'à son objet. Il ne reste pas en route. C'est pour cela que le texte se poursuit, que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Ici, pour nous, il y a beaucoup de choses, chers amis, qui sont à prendre en compte. Parce que ça ne suffit pas d'avoir un désir. Ça ne suffit même pas de vouloir boire à la source. Mais il faut encore le mettre en œuvre, il faut qu'il soit efficace, il faut qu'il soit agissant, que ce désir soit transformé en action concrète. Et toujours, le dernier mot, il faut se souvenir que quand on prend cette eau, c'est de manière gratuite. Il ne faut pas faire de la simonie pour vouloir l'acheter. Alors, chers amis, j'ai déjà longuement parlé jusqu'ici à travers, dans un premier temps, le texte qui était situé, le verset « L'esprit et l'épouse disent « Viens » était situé dans un contexte biblique plus large qui est celui de l'Apocalypse de Saint Jean. Ensuite, nous avons essayé de situer ce propos, ce bout de phrase, ce bout de verset en lien avec un faisceau d'autres textes bibliques qui ont résonné et qui parlent tout aussi du fleuve de vie, qui parlent de l'eau vive et qui parlent même du baptisé en qui est créée une autre source vive. Maintenant, je voudrais prendre un autre moment pour aller dans une troisième partie qui va être sans doute la dernière partie de cet enseignement. Donc, chers amis, nous allons poursuivre. Je ne sais plus trop combien de temps je dispose, mais j'espère qu'on va me le dire. Nous allons donc poursuivre avec une double orientation que je voudrais vous proposer. Une qui est davantage ecclésiologique, c'est-à-dire quel est donc le type d'église qui s'élabore, qui se tient derrière la petite et modeste réflexion que nous venons de faire. On a parlé beaucoup de l'épouse comme église, mais il y a un type d'église qui s'élabore là que nous devons mettre en avant. Ensuite, je voudrais proposer mettre en lien cette réflexion avec la problématique de l'eau dans la société contemporaine. Parce qu'il faut bien que vous vous rendiez compte que nous ne pouvons pas parler de l'eau comme si toutes les personnes de la Terre en avaient accès. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par cette question de l'eau, ça sera plus simple, puis je terminerai par le type d'église qui est en élaboration derrière cette réflexion. Donc, je vous propose un petit, là ça va être très ludique, chers amis, vous allez être peut-être décoiffés et même étonnés que ça se passe ainsi, mais en fait, je voudrais vous proposer un petit outil qui a été élaboré par le Comité catholique contre la faim et pour le développement, CCFD, ça s'appelle. C'est un quiz intitulé « L'eau et moi » pour sensibiliser sur les problématiques de l'eau dans le monde. En fait, à quel titre cela nous intéresse de regarder ce quiz? Notre discours sur l'eau vive de l'Esprit Saint risque d'être, comment je dirais, notre discours sur l'eau vive risque d'être inopérant. Ça risque d'être un discours qui est discrédité, un discours qui est hors sol. Pourquoi hors sol? Parce que nous ne connaissons pas les répercussions écologiques de ce discours, la question de l'eau. Discrédité par nos contemporains parce que peut-être nos comportements sont anti-écologiques par rapport à l'eau. Alors, parler de l'eau, de vivre de l'Esprit Saint, doit nous conduire à une conversion écologique, davantage pour bien être ajusté par rapport dans nos comportements, par rapport à ce que nous disons. Alors le quiz, par exemple, il nous dit que d'où provient l'eau, si on vous demandait. Vous allez me dire que c'est peut-être simple comme réponse, mais il faut savoir que l'eau vient de l'évaporation de l'eau de la mer. C'est-à-dire qu'en effet, avec la chaleur du soleil, l'eau de la mer se transforme en vapeur d'eau et monte dans le ciel. En altitude, la température est beaucoup plus faible et la vapeur se transforme en gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes deviennent pluie, neige ou grêle. Voilà d'où nous vient l'eau. D'ailleurs, là où je parle, d'où je suis, il y a de la pluie dehors. Alors, quels sont les agents qui consomment le plus d'eau dans notre société? Est-ce que ce sont les entreprises, les ménages, l'irrigation, l'agriculture? Ben, figurez-vous que l'agriculture a besoin de beaucoup d'eau pour arroser les cultures et pour abreuver le bétail, dont elle consomme 60% des ressources en eau sur la terre. Vous ne le saviez peut-être pas ça. Dans le modèle occidental dans lequel nous sommes ici en France, nous ne pouvons pas le généraliser à toute la terre entière, car ce modèle est trop gourmand en eau. Et puis, d'où provient une grande partie de l'eau du robinet que nous avons chez nous? Ben, cette partie du robinet, figurez-vous, en France, en tout cas, l'eau du robinet vient à 62% des nappes phréatiques. Une nappe phréatique, c'est quoi? C'est une zone du sous-sol qui est remplie d'eau. Il est donc très important de limiter la pollution pour préserver cette réserve d'eau qui n'est pas inépuisable. Et donc tout ce qui est toxique et qui est avec beaucoup d'engrais qu'on jette sur la terre, dans, comme ça, ça pollue. Et ça nous fait avoir une eau qui ne peut plus être une eau vive du cristal, comme on l'a entendu. Et sur notre planète, combien de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, chers amis? Vous direz la moitié de la population, un tiers de la population, un quart, un cinquième? Eh bien, je vais vous dire que c'est sur la Terre, 768 millions de personnes n'ont pas l'accès à l'eau potable, même si depuis 1990, de réels progrès ont été faits. Ça fait beaucoup, 768 millions de personnes sur la Terre. Alors, quels sont les continents qui ont un accès limité à l'eau alors que c'est reconnu comme un droit de l'homme? Est-ce que c'est, vous direz, l'Asie et l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, l'Asie et l'Océanie, l'Europe et l'Afrique? Eh bien, chers amis, voici les continents qui ont le plus du mal à accéder à l'eau, l'Afrique et l'Asie. L'Afrique souffre de grandes sécheresses. En Asie, chaque année, 2,6 millions de personnes meurent parce qu'elles ont bu une eau contaminée par des matières fécales. Il est urgent de développer l'accès à l'eau potable dans ces pays. Et quelle est la principale cause de pollution de l'eau dans le monde? Vous direz les transports, les usines, l'agriculture, les déchets domestiques de la maison? Ben, chers amis, la principale cause de pollution de l'eau est l'industrie qui rejette énormément de déchets et de produits chimiques dans la nature. Ce sont les pauvres qui en pâtissent. Ces produits sont à l'origine de cette pollution. Vous voyez donc, il y a aussi la pollution des bateaux en mer. Et tout ça, ce sont les pauvres qui en pâtissent. Combien de personnes meurent-elles prématurément chaque année de maladies liées à l'eau dans le monde, dans les pays en voie de développement, chers amis? Vous direz 2,5 millions de personnes, 3,5 millions de personnes, 4,5 millions de personnes ou enfin 5,5 millions de personnes. Eh bien, 3 millions de personnes meurent chaque année à cause des maladies liées à l'eau. Et vous savez que ces maladies, c'est la bilharziose, c'est la dysenterie, c'est la diarrhée, tout cela. En effet, ce sont surtout les populations pauvres qui n'ont pas les moyens de traiter les eaux qu'elles boivent. L'eau insalubre est l'ennemi numéro un dans le monde. Première cause de mortalité. Chers amis, et on va terminer par ceci. Pourquoi les pays développés ont-ils un meilleur accès à l'eau? Est-ce que vous direz, grâce à leur position géographique, car ils bénéficient d'un climat favorable, car ils sont partenaires avec des pays producteurs d'eau, car ils ont les moyens financiers de mettre en place des aménagements adaptés? Ben voici la réponse. Les pays développés sont ceux qui ont le plus d'argent, alors que les aménagements nécessaires à l'accès à l'eau sont coûteux. Les pays en voie de développement devront investir massivement pour faciliter l'accès à l'eau. Chers amis, quand j'ai parlé de ceci, c'était bien pour vous faire comprendre que la problématique de l'eau, nous ne pouvons pas tenir le discours qu'on a tenu là et en même temps ne pas inscrire ce propos dans des problématiques contemporaines. Donc, il faut avoir bien à l'esprit que nous avons à soutenir notre discours, à l'inscrire dans un contexte précis, pour que nous ne puissions pas être de ceux qui disent des choses et notre vie est en contradiction avec cela. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie de l'eau. Et c'est pour vous dire aussi que quand on parle de l'eau, ce n'est pas pour réduire l'eau à ce qui est réhydratant, qui nous apporte un bien-être, où on arrive à se laver. Ça ne suffit pas tout cela. Il faut aussi qu'on comprenne que l'eau est une symbolique de l'Esprit-Saint. Elle doit être mise en lien, toujours avec d'autres symboles comme le feu, le vent et l'huile. Un texte du pape François, intitulé dans Léo, qui est tiré de Laudato Si, au numéro 28 et 39. Voici ce que le pape dit. Ce monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui n'ont pas accès à l'eau potable, parce que c'est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur dignité inaliénable. Ce monde a une grande dette sociale envers les pauvres qui n'ont pas accès à l'eau potable parce que c'est leur nier le droit à la vie enraciné dans leur dignité inaliénable. Derrière cet approfondissement original, de l'Esprit-Saint dans sa symbolique de l'eau vive. Il y a certes une prise en compte par la foi chrétienne des questions sociales, mais c'est surtout la clameur des pauvres qu'il faut parvenir à entendre et à la relayer le plus loin possible. En effet, à quoi cela sert-il de chanter en langue, de lever les mains, d'appeler le Christ ressuscité à venir en ce temps de l'Avent, si nous ne développons pas dans le même temps une empathie et une compassion active, efficace pour nos frères en humanité qui n'ont pas accès à l'eau vive? Bien évidemment, ils ne comprendront rien à ce qu'on veut dire l'Esprit Saint et l'eau vive parce qu'ils n'ont pas l'expérience directe d'une eau vive. Voilà pourquoi. Pourquoi il faut que le propos soit enchâssé dans ces genres de développement? Bien évidemment, il ne s'agit en aucun cas, bien comme je l'ai dit, de ne tenir que en épingle, monter en épingle l'eau comme symbole de l'Esprit-Saint en oubliant les autres. Il y a d'autres symboles qui doivent être mis ensemble, feu, vent et huile.
Eh bien, souhaitons que ce soit pour une autre intervention, une autre émission, toute cette puissance symbolique qui s'enracine comme tout symbole dans une réalité très très concrète, hein, n'est-ce pas?
Exactement.
Et oui, sinon ce n'est plus un symbole, c'est du nominalisme.
Je suis content que vous souligniez cela. Mais parce que nos auditeurs doivent comprendre que notre foi chrétienne se vit dans un environnement social, économique et environnemental, et que nous devions aussi faire que cet environnement proclame la force de ce que nous célébrons dans nos liturgies. Si c'est plutôt contredit, ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a quelque chose qui est une contradiction là.
Le chant aussi de la création qui est tendu vers le Sauveur aussi, hein, sa louange.
Très bien. Enfin, vous nous proposez un autre chant.
Merci en tout cas, mon très cher père. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier vivement pour vos éclaircies et votre méditation.
Merci beaucoup et merci aux auditeurs.